Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous avons la sixième partie de notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Les sept églises de l'Asie mineure entraient dans une période de persécution aux mains du très puissant Empire romain. L'empereur s'était déclaré un dieu. Et il voulait que tous ses sujets l'adorent dans les temples qui étaient construits un peu partout à son honneur. Les Juifs étaient exempts de cet ordre. Parmi tous les autres habitants de l'Empire, seuls les chrétiens refusaient de lui donner l'adoration que Dieu seul a le droit de recevoir. Pour cette raison, Rome allait employer tous les moyens à sa disposition pour faire disparaître la foi chrétienne. Pour encourager son Église dans ce conflit mortel, le Seigneur Jésus envoie un message que nous appelons le livre de l'Apocalypse. Ce livre décrit une variété de choses que l'apôtre Jean a vues en vision, mais il commence par de brèves exhortations adressées à chacune des sept églises en question, selon leur situation individuelle. Aujourd'hui, nous examinons ensemble les trois derniers de ces messages. La cinquième lettre, que nous trouvons au verset 1 à 6 du chapitre 3, était pour l'Église dans la ville de Sardes. C'était une ville qui se glorifiait de son passé. Elle avait été la capitale du puissant royaume de Lydie. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, elle connut la gloire sous le règne de Crésus, réputé être le roi le plus riche de l'histoire. La ville était située sur une montagne, de telle façon à être très facile à défendre. Elle ne fut jamais prise par la simple force militaire, mais elle tomba deux fois entre les mains de ses ennemis par manque de vigilance. En 546 avant Jésus-Christ, le roi perse Cyrus put s'emparer de la ville quand quelques-uns de ses soldats escaladèrent les falaises qui servaient de rempart et que les gens de la ville, dans leur excès de confiance, ne gardaient pas. Les soldats ouvrirent alors les portes de la ville de l'intérieur et firent entrer l'armée de Cyrus. En 218 avant Jésus-Christ, la ville tomba entre les mains d'Antiochus le Grand par la même ruse. En 17 après Jésus-Christ, la ville fut détruite par un tremblement de terre et on la reconstruisit au pied de la montagne. À la fin du premier siècle, c'était une ville en déclin, qui mourait petit à petit. Comme la ville où elle se trouvait, l'église de Sardes avait un nom, une réputation auprès des autres assemblées, à cause de ses activités ou bonnes qualités du passé. Mais le Seigneur l'appelle une église morte. Cela devait être un choc pour une assemblée habituée à être louée par les hommes. Il est intéressant de noter qu'il n'y a aucune trace dans cette lettre d'une opposition ou persécution subie par l'Église de Sardes. Aucune lutte, ni avec Rome, ni avec les voisins païens, ni avec les Juifs. Comment cela serait-il possible, à moins que l'Église ait cessé d'évangéliser? En effet, Jésus dit à l'Église de Sardes que ses œuvres ne sont pas parfaites ou achevées. L'assemblée ne fait son travail qu'à moitié. Une église pieuse, zélée et évangélisatrice aura forcément des problèmes en prêchant l'évangile face à la persécution officielle et en menant une vie chrétienne sans compromis. Peut-être que l'assemblée de Sardes se contentait de célébrer un culte pour ceux qui étaient déjà membres. Jésus dit à cette église, « Sois vigilante ». Elle avait besoin de ne pas négliger l'accomplissement de la charge qu'elle avait reçue de Dieu. L'Église avait besoin de se rappeler son service du passé, pas pour s'en glorifier, mais pour retrouver la ferveur d'autrefois. Si elle ne se repentait pas, le Seigneur dit qu'il viendrait. Il parle de ses jugements providentiels et les difficultés qu'il envoie pour châtier l'assemblée, et aussi de son deuxième avènement. Il ne faut pas que les chrétiens négligent leurs devoirs et que le Seigneur soit obligé de les punir, ni dans cette vie, ni à son retour. Être vigilant fait éviter le châtiment dans les deux cas. Valait-il la peine de réanimer leur ardeur et attirer de nouveau l'opposition des non-croyants par une évangélisation zélée? Jésus promet aux vainqueurs des robes blanches, symbole de pureté, victoire et joie. Il n'effacerait pas leur nom du livre de la vie. Cette promesse indique bien sûr qu'un chrétien peut, par son infidélité, faire effacer son nom de ce livre et perdre son salut. Enfin, le chrétien fidèle entendra Jésus le reconnaître comme son disciple devant Dieu et les anges. Oui, ça vaut la peine de persévérer. Au chapitre 3, versets 7 à 13, nous voyons l'église de Philadelphie. Les cultes païens abondaient dans la petite ville de Philadelphie, mais l'église qui s'y trouvait était fidèle. Jésus ne fait pas de reproche à l'assemblée de Philadelphie, comme il n'en a pas fait à celle de Smyrne. Cette assemblée avait peu de puissance. Le nombre de ses fidèles, ses richesses, son prestige étaient limités. Mais une église n'a pas besoin d'être grande pour avoir l'approbation de Dieu. La vraie puissance de cette église était sa fidélité au Christ et à sa parole puissante. Face aux pressions de son entourage, elle n'avait pas renié le Seigneur. Plus tard, 11 de ses membres furent tués en même temps que le vieux Polycarpe de l'église de Smyrne pour avoir refusé de renoncer à leur foi. Ces chrétiens étaient fidèles au Christ dans leurs moments d'épreuve. Le Christ promet leur être fidèle dans les malheurs qui venaient sur le monde entier, c'est-à-dire sur l'Empire romain. Il va les garder à l'heure de tentation, comme Jésus avait demandé au Père, non pas d'ôter ses disciples du monde, mais de les garder du malin. Le malin ne laisse pas tranquille le peuple de Dieu, mais le Seigneur peut les faire tenir debout. Au verset 11, Jésus dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Il venait bientôt pour venger son peuple contre leurs ennemis, les Romains. Les Philadelphiens n'avaient pas besoin de se repentir afin d'être prêts pour sa venue, mais ils devaient continuer dans leur fidélité. Le Christ les exhorte « Que personne ne prenne ta couronne. » Il ne veut pas dire que quelqu'un pourrait recevoir la couronne à leur place, mais quelqu'un pourrait les influencer à perdre la couronne par le péché. De la même manière, Paul dit aux Colossiens « Que personne ne vous ravisse le prix de la course. » Colossiens 2, verset 18. Enfin, nous avons l'église de Laodicée, chapitre 3, versets 14 à 22. Laodicée était pratiquement sans importance politique et culturelle, mais célèbre pour sa richesse. La ville était située au carrefour de plusieurs routes commerciales, ce qui favorisait beaucoup son économie. C'était aussi un centre financier avec de nombreuses banques. La situation de la ville était si aisée que, après un tremblement de terre qui la secoua en 61 après Jésus-Christ, la population la reconstruisit sans l'aide financière de l'État, que les autres villes avaient toujours accepté en pareil cas. Laodicée était fière, riche et sans besoin d'aide extérieure. L'église de Laodicée est la seule assemblée que le Seigneur ne loue point dans l'Apocalypse. L'état spirituel de ses membres était entre la froideur de l'incroyance et la chaleur d'une vie zélée pour le Christ. Ils étaient tièdes. Peut-être qu'ils craignaient d'être considérés comme des fanatiques religieux. Quelle que soit la raison, le Seigneur dit, en effet, qu'il le rendait malade. Il dit « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Ainsi, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il préfère que l'on soit froid ou bouillant, mais pas tiède. On peut trouver cela étrange que le Christ nous préfère froid que tiède, mais cela s'accorde avec plusieurs autres passages. 2 Pierre 2, verset 21, nous dit qu'il vaut mieux ne pas connaître la voie de la justice que de s'en détourner après l'avoir connue. Mieux valait pour les Laodicéens de ne s'être pas engagé dans une vie d'obéissance que de tomber plus tard dans l'indifférence et le compromis. Malachie 1, verset 10 à 14 dit que Dieu préférait que les portes de son temple soient fermées que de voir les Juifs lui offrir un culte sans dévotion et sans respect. Une telle adoration constituait plutôt une insulte. En Luc 14, versets 25 à 30, Jésus montre qu'il préférait un petit nombre de disciples qui étaient décidés de le suivre en toutes circonstances à une grande foule sur qui il ne pouvait pas compter. Peut-être qu'il préfère les incroyants aux chrétiens indifférents parce qu'on évalue le Christ selon ceux qui se disent ses disciples, et non pas selon ceux qui ne prétendent pas le connaître. Une raison pour la tiédeur de l'église de Laodicée était sûrement qu'elle croyait se suffire à elle-même. Elle faisait confiance à son argent, ou aux qualités spirituelles qu'elle croyait avoir. Mais elle oubliait que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. Devant celui qui dispense tout don excellent, elle disait « Je n'ai besoin de rien ». Mais à l'inverse de l'église de Smyrne, Laodicée était, en réalité, une église pauvre. Ces chrétiens devaient se repentir de leur manque de zèle. Le zèle est le contraire de la tiédeur. Il fallait qu'ils se donnent de tout leur cœur au service de Dieu et lui obéissent inconditionnellement. Jésus dit au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il veut jouir de la communion spirituelle, présentée sous l'image d'un repas, avec ses chrétiens. Les gens emploient parfois ce passage pour suggérer que pour être sauvés, le non-chrétien a besoin de seulement inviter ou recevoir Jésus dans son cœur. Mais Jésus ne parlait pas à ceux qui n'avaient jamais été sauvés. Le contexte ici est plutôt un appel à des chrétiens tièdes et satisfaits d'eux-mêmes qui avaient exclu le Seigneur de leur vie. Les sept églises que nous avons vues dans ces lettres ne sont pas très différentes des assemblées locales de nos jours. La plupart avaient des faiblesses ainsi que des qualités. Les péchés dont elles devaient se repentir, une baisse d'amour, une tolérance de la fausse doctrine, des compromis avec le monde idolâtre, l'orgueil spirituel, un manque de zèle. Tous ces péchés risquent de nous faire condamner aussi si nous ne nous repentons pas. Tirons donc des leçons du livre de l'Apocalypse afin d'être agréables à notre Seigneur.